on va y arriver. Persévérons, persévérons. Voilà. On va revenir à notre pauvre David. Je dis pauvre David parce que moi, il me fait mal au cœur. Il n'a rien fait de mal. Il a fait ce que Dieu lui demandait. C'est Dieu qui est allé le chercher. Et puis, le voilà victime de la jalousie de Saül. L'homme qui aurait dû l'aider, l'homme qui aurait dû le mettre sur la piste, en quelque sorte, hein, va s'opposer à lui et lui chercher des misères. À partir de ce chant, vous vous souvenez, des femmes qui avaient chanté « Saül a vaincu ses 1000 et David ses 10 000 ». Et voilà, la jalousie est rentrée dans le cœur de Saül. Saül a commencé à avoir un œil méchant, un œil malveillant. Hein, certaines traductions disent un mauvais œil sur David. Son regard a changé et la jalousie est entrée dans son cœur. Est-ce qu'il s'agissait de ce mauvais esprit venant de l'Éternel? Donc, Dieu a permis qu'il y ait un mauvais esprit qui rentre parce que la jalousie a touché le cœur de Saül. Alors, il y a un certain nombre de choses étranges. C'est que Saül, sous l'influence de ce mauvais esprit, va prophétiser. Alors ça pose problème à pas mal de gens. Comment est-ce qu'on peut prophétiser sous l'influence d'un mauvais esprit? Alors, ça n'a rien d'étrange, parce que j'ai regardé dans la Bible, il y avait tellement de références que j'ai arrêtées, parce que je ne veux pas vous assommer de références. Mais déjà, vous pouvez regarder dans Jérémie, chapitre 23, versets 16 à 32, et il y en a plein d'autres, où on voit qu'on peut prophétiser sous l'influence d'esprits méchants, d'esprits de mensonges, d'esprits divers et variés. Donc, ce n'est pas étonnant. Le diable est expert en contrefaçon. Et puis, c'est pour ça que la Bible nous dit d'éprouver les esprits. Hein, donc, les prophéties, c'est quelque chose à manier avec précaution. Quelque chose de dangereux. C'est vrai que des mauvais esprits peuvent s'en mêler. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Donc, voilà Saül sous l'influence d'un mauvais esprit qui va prophétiser au milieu de sa maison. Étrange. Alors, le texte ne dit pas du tout ce qu'il prophétisait. Donc, ça n'avait pas une importance considérable, j'imagine. Mais ce qui inquiète, c'est son comportement criminel à l'égard de David. D'une part, il va prophétiser, d'autre part, il n'a qu'une idée en tête, assassiner David. C'est deux choses qui ne vont pas très bien ensemble. Donc, ça laisse entendre qu'effectivement, c'était un mauvais esprit qui le poussait à soi-disant parler de la part de Dieu. Puisque c'est ça que ça veut dire, prophétiser, hein. Parler de la part de Dieu. Donc, des textes sur les fausses prophéties, les esprits de mensonge dans les prophéties, vous en avez des tas. Si vous regardez dans Jérémie, vous avez des petites notes sur les côtés, vous allez les trouver. Vous regardez dans un dictionnaire biblique, à prophétie, vous allez voir, il y en a une liste énorme. C'est pour ça que Dieu nous dit, éprouvez les prophéties, retenez ce qui est bon. Et elle ajoute aussi, d'ailleurs, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce que racontait Saül aurait pu être passé à l'épreuve d'un autre prophète qui aurait pu justement lui faire la part des choses. D'où l'importance, quand on reçoit même nous des paroles de prophétie, de les soumettre à d'autres personnes qui ont un don de prophétie. C'est important, c'est un gage, c'est une sécurité. En fait, c'est une sécurité. Parce qu'on peut recevoir des choses au travers de nos sentiments, de nos émotions. Si on aime beaucoup quelqu'un, on lui veut du bien, on va forcément prophétiser des tas de bonnes choses. Voilà, il faut être prudent. Et souvent, comparer ce qu'on a reçu, ce qu'on croit avoir reçu de Dieu, avec quelqu'un d'autre, ça peut nous... C'est ce que la Bible conseille. Hein. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est un gage de sécurité. Alors, Saül... Donc, on a réglé ce problème de prophétie bizarre. Et vous allez voir que ça va se reproduire, curieusement encore. C'est curieux, d'ailleurs, c'est lui, je crois, dans l'Ancien Testament, qui va prophétiser le plus. Mais malheureusement, souvent à côté de ses pompes, c'est souciant. Mais bon. Saül va donc commencer à passer sa vie à attaquer, à essayer de tuer David. Et il avait probablement compris, je pense que c'est à peu près sûr à ce niveau-là, que Dieu avait choisi David et il ne va pas oser s'opposer à Dieu. Donc, à qui il va s'opposer? À David. Il cherche à éliminer l'homme, parce qu'il sait qu'avec Dieu, il ne peut rien faire. Deux fois, avec sa lance, il a lancé sa lance contre David, au moment où il est en train de jouer la musique pour le soulager. C'est vachement gentil. Lui, il est là pour lui amener un soulagement au travers de sa musique. David est rempli de l'Esprit du Seigneur. Et je pense que sa musique devait être remplie de l'Esprit du Seigneur. C'est dommage qu'on n'a pas les partitions. Mais... Deux fois avec sa lance, il va essayer de le clouer au mur. David, grâce à Dieu, va l'éviter. Il était rapide. Et curieusement, comme j'avais remarqué la dernière fois, c'est Saül qui a peur. Non, mais c'est ça qui est quand même bizarre. Hein. C'est lui qui attaque et c'est lui qui a peur. Il cherche aussi après à le faire tuer par les Philistins, le faire combattre pour épouser sa fille sous un prétexte tout à fait religieux, et ça c'est dégoûtant. David va mener les guerres du Seigneur. Ben voyons. Tout ce qu'il avait en tête, c'est pourvu qu'il soit tué en menant les guerres du Seigneur. Pas très gentil. Mais ça, c'est Saül. Saül rempli de jalousie. Alors quelqu'un m'a posé une question intéressante qui m'a fait un peu cogiter toute la semaine. C'est, ok, on peut, nous, chercher à éviter d'être jaloux, se confier au Seigneur, demander pardon à Dieu, chercher à ne pas rentrer dans l'esprit de jalousie. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est jaloux de nous et qu'on n'y peut rien et qu'on n'a rien fait pour? Là, c'est embêtant. Et ça, c'est des situations qu'on vit tous plus ou moins à l'école, au travail. À l'école, si on est premier de classe, forte chance que ça nous arrive. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai réfléchi toute la semaine, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu me donnes une réponse. Alors, je n'ai peut-être pas très bien écouté, mais j'ai vraiment du mal. La seule chose que j'ai trouvée, c'est l'attitude de David. Donc, on va voir comment David s'est comporté par rapport à Saül. Alors, David était en face d'une jalousie meurtrière. C'est le pire qui puisse arriver. Mais la jalousie est toujours... c'est vraiment pour faire du mal. Mais là, David était bloqué. C'était le roi, rempli d'une jalousie meurtrière. Il avait jadis été oint roi par Samuel, donc sur l'ordre de Dieu. Donc, il n'osait pas trop intervenir. J'ai donc retenu quelques petites choses, mais je ne pense pas avoir la réponse définitive. C'est qu'il y a, entre autres, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est jaloux. Si je ne me trompe pas, j'ai bien regardé le texte et j'ai prié, et je pense qu'en général, on ne peut pas discuter. On ne peut pas aller voir la personne. Et c'est peut-être là que clarté, droit, autorité ne va pas forcément marcher autant. Faire la clarté avec cette personne en disant « J'ai vu que tu étais jaloux de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir ?» On ne peut pas. C'est très rare que ça puisse marcher. David ne va pas le faire. Curieusement, vous allez voir tout à l'heure, c'est Jonathan qui va le faire. Dire à son père « Mais enfin, pourquoi? Il ne t'a rien fait. » On va étudier ce texte un petit peu après. Donc c'est très rare qu'on puisse se permettre ça. Sauf occasion exceptionnelle, c'est très difficile d'aller vers quelqu'un en lui disant « Je sais que tu es jaloux de moi. » Parce que ça va empirer les choses. Et en plus, il me semble que la jalousie, c'est vraiment, ça finit par être un esprit qui prend racine sur une blessure et qui est absolument indéracinable. Donc c'est très difficile d'aller voir la personne. Alors, qu'est-ce que va faire David? Il va garder le silence. Il va garder le silence et il va prier. Et là, on va voir les psaumes qu'il a écrits pendant cette période-là. C'est impressionnant. Je me dis, alors je regardais les paroles de ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je dis, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on chante? Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Bon, moi, je vous avouerai que dans les tempêtes, je ne suis pas très tranquille. Et quand les océans se déchaînent, j'ai plutôt envie de faire comme les autruches, mettre la tête dans le sable et d'attendre que ça passe. Mais bon, ça c'est moi. Après, il faut se comporter en chrétien. Donc on cherche vraiment la présence du Seigneur, on cherche son aide. Mais les tempêtes et les océans qui se déchaînent, ça n'a rien de très marrant. Et c'est difficile, on peut le chanter, « Je suis tranquille car tu es là ». Mais est-ce qu'on est vraiment tranquille, hein? Et regardons les psaumes de David. On va en lire tout à l'heure. Vous allez voir qu'il n'était pas si tranquille que ça. Parce que lui, vraiment, les océans déchaînaient et les tempêtes. Et en plus, il n'avait rien fait pour ça. Parce que parfois, on se récupère des tempêtes, mais on avait semé le vent. Donc, on peut se récupérer une tempête. C'est normal. Par contre, quand on n'a rien fait pour... C'est dur, hein? C'est difficile d'être tranquille. Mais pourtant, on sait que Dieu est là, on sait qu'il prend soin de nous. Et on va le dire et le redire, David le savait. Et il est capable, dans le même psaume, alors si vous relisez les psaumes, vous allez voir, on va en lire certains. Il est capable de dire dans le même temps, Seigneur, tu es là, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, je me confie en toi, tu es comme une forte citadelle pour moi, etc. Puis à côté de dire, pourquoi le méchant prospère et vient à bout de ses mauvais desseins, etc. Voilà, ça c'est, voilà, entre autres, pourquoi j'aime tant la Bible. Parce qu'elle est authentique. Elle ne va pas nous faire croire que David était dans une sorte de nirvana au milieu de la tempête. Non, il oscille tout le temps entre ces deux. Il est humain. Il est normal. Il est comme nous. Il oscille entre « Oui, Seigneur, tu es ma forteresse » et « Pourquoi le méchant prospère ?» Voilà. « Écrase-les contre le rocher. » Ouyaï. Bon. Il est humain. Il est humain. Et Dieu nous montre l'être humain tel qu'il est. C'est pour ça que je dis que la Bible est vraie. Elle ne peut pas être plus vraie. Elle dit les choses comme elles sont. Elle ne met pas de dorure dessus. Et ça, moi, j'aime énormément parce qu'on peut faire confiance à la parole de Dieu. Alors, on en était, je crois, au moment où Saül a une très bonne idée. Il cherche à faire, bien sûr, il a mis David à la tête de mille. Et quelqu'un a fait remarquer que c'est bien joli, mais après la victoire sur Goliath, il était tout près de la tête de l'ensemble de l'armée. Là, on ne sait pas ce qui se passe, il lui confie 1000. Bah, il se dit que ce sera plus facile certainement pour l'éliminer s'il n'a que 1000 personnes sous ses ordres. Et puis l'idée, c'est de lui donner sa fille en mariage. Ça aurait dû déjà être le cas puisque c'était promis après la victoire sur Goliath. Et puis la Bible dit qu'au moment où il aurait dû donner sa fille en mariage à David, il va la donner à Adriel de Méola, à quelqu'un d'autre. C'est là que ça m'intéresse, c'est la réaction de David. Face à une injustice flagrante, un mensonge, une parole qui n'est pas tenue, qui était en plus, tout le monde le savait, ça n'était pas dit entre deux portes. Tous les soldats savaient que celui qui aurait la victoire sur Goliath épouserait la fille de Saül. Au moment où il doit donner sa fille en mariage, il la donne à quelqu'un d'autre. Et la Bible ne fait absolument pas mention de la réaction de David. Je pense qu'il s'est tu. Parce que David n'était pas dans la revendication. Et ça, c'est un trésor dans le cœur de David. Il aurait été dans la revendication, il en serait mort. Il n'était pas dans la revendication. Si Dieu veut me donner, il me donnera. Si ça ne se passe pas, moi je laisse Dieu faire. Ça, c'était une grande, grande qualité de David. David n'était pas motivé par l'honneur d'être le gendre du roi. C'était le problème de ses motivations aussi. Il faut toujours qu'on se pose des questions sur nos propres motivations. Il n'était pas motivé par l'honneur d'être le gendre du roi. Il ne cherche rien pour lui. Il est conscient d'être d'une humble origine. Apparemment, la Bible dit que son père avait un petit troupeau, donc ce n'était pas des gens très riches. Ce n'était pas Abraham. Abraham était immensément riche. La Bible ne dit pas ce qu'il a ressenti quand Saül n'a pas tenu parole. Son humilité, sa conscience d'être petit, lui a sans doute permis de laisser tomber. Il savait qui il était. Ah, il était d'une petite famille, c'était le plus petit. Et il ne s'est pas focalisé sur le fait « Ouais, j'ai eu la victoire sur Goliath, on ne m'a pas donné ce qui a été promis. » Il ne va pas revendiquer, il ne va pas hurler à l'injustice. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Jésus, ce verset qu'on lit à chaque sainte scène, qui n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, qui n'a pas cherché comme une proie à arracher. C'est l'esprit de Jésus qui ne revendique pas les choses. David avait mis toute sa confiance en Dieu. Il était convaincu que c'est Dieu qui décidait de son avenir et pas les hommes, même les plus méchants. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on grave davantage dans nos cœurs en face des difficultés. Les gens me créent des problèmes, etc. Mais c'est Dieu qui décidera en fin de compte. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc il y a un moment où les gens peuvent nous faire du tort, ils peuvent nous casser les pieds, ils peuvent être jaloux, mais attention, en finale, c'est Dieu qui va décider. Et cette confiance est très très importante dans notre vie. Il était convaincu que seul Dieu décidait de son avenir. Saül lui a rendu la vie difficile, mais il n'est jamais arrivé à empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Il a peut-être retardé un petit peu, mais au passage, David a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, hein? Donc c'est important, il ne revendique pas. Alors la fois suivante, ça se complique, c'est la fille de Saül qui demande à épouser David. Elle est éblouie par ce jeune guerrier. Et Saül pense que c'est une très bonne chose, mais pas pour la bonne motivation. Vous avez vu ce qu'il dit ? Je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège. Oh, comme c'est gentil. Je lui donne, mais vraiment, c'est la peau de banane. Il va glisser dessus, il va se casser la figure. C'est terrible, hein, l'esprit. Vous voyez à quel point il est tordu. Même les bonnes choses qu'il donne, c'est dans l'idée de faire du mal. Comment on peut être tordu ? Vous voyez, la jalousie, comment ça tord ? Ça tord l'esprit des gens. Les meilleures choses sont tordues. Ça devient des armes pour éliminer David. Et après, il envoie même les gens de la cour parler à David. Ah, il est rusé, hein ? Il est manipulateur, ça. Vous voyez ce qu'il est devenu ? Cet homme qui était droit, qui était réservé, qui était humble, c'est devenu une horreur. Et il va manipuler avec les gens de la cour. Il va leur dire, allez le voir. Et dites-lui, comme le roi est content, qu'il épouse sa fille, etc. Et bien sûr, ils le font, les gens de la cour. Mais David, alors là, il ne se laisse pas. Alors, autant il ne revendique pas, autant là, il dit, écoutez, de toute façon, il est sûr de son identité. Je suis ce que je suis, hein, je suis pas riche, je ne pourrai jamais payer la dot d'une fille de roi. Puisqu'on ne parle plus de Goliath, ça veut dire qu'il faut payer une dot, il n'était pas fou. Donc je ne pourrais pas prétendre à être le gendre du roi. Et David a une autre qualité là, il n'est pas manipulable. Ce n'est pas parce qu'on lui offre quelque chose de formidable. Quel jeune soldat n'aurait pas voulu être le gendre du roi ? Il n'en a rien à faire. C'est Dieu qui décide de sa vie. On ne va pas le manipuler. Il sait qui il est. Il est sûr de son identité. Il n'a pas besoin d'épouser la fille de Saül pour confirmer son identité. D'où l'importance de bien connaître son identité. Et il dit, de toute façon, je ne pourrais pas payer la dot. Il reste vrai, factuel. Alors Saül, lui, il a une idée. Toujours, il y a toujours des bonnes idées. Il va demander des prépuces de Philistins. Il se dit là, mathématiquement, il va se faire tuer. Parce que contre une personne, on a 50% des chances de gagner. Contre 10, contre 100, contre 100, t'es sûr qu'il y passerait. Mais David était un bon soldat. Je pense qu'il est allé avec sa troupe. Il a tué 200 Philistins. Là, la Bible dit que Saül, de nouveau, il a peur. Vous voyez, à chaque fois que David a une victoire, la peur est dans l'autre camp. On aimerait bien que ce soit vrai pour nous. Hein. Chaque fois qu'on a des difficultés, que ce soit l'ennemi qui ait peur et pas nous. Ah là là, on aimerait ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec David. La peur le prend chaque fois, ça prend Saül chaque fois que David a une victoire. La Bible dit, Saül craignit de plus en plus David. Saül fut toujours l'ennemi de David à partir de ce jour. Donc il va lui donner sa fille en mariage, il ne peut plus faire autrement. Mais il a de plus en plus peur de ce gars qui remporte tout le temps des victoires. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux pharisiens avec Jésus. Vous vous souvenez l'attitude des pharisiens avec Jésus ? C'est choquant, hein ? Les pharisiens, c'était des gens qui étaient soucieux de pureté, d'honorer Dieu, de s'éloigner des idoles. Ils connaissaient bien la loi. Et pourtant, ils connaissaient les prophéties sur le Messie. J'ai jamais compris ça, d'ailleurs. Qu'ils ont été capables de donner les prophéties aux rois mages, les prêtres, et de ne pas reconnaître Jésus après. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et les pharisiens connaissaient la loi, ils savaient qui serait le Messie, où il naîtrait, etc. Et pourtant, après chaque miracle de Jésus, rappelez-vous les textes de l'Évangile. Et Jésus guérit, nananana, et derrière, les pharisiens cherchèrent à le tuer. On a le même principe, la peur, la jalousie, la volonté de tuer. On va retrouver ça, c'est l'action pure de l'ennemi. Chaque victoire, chaque guérison, chaque enseignement fort de Jésus est suivi de ce verset, ils cherchèrent à le tuer. Ils cherchèrent une occasion de le tuer, hein. Et on va retrouver exactement la même chose. Ils sont pris par la peur panique et au lieu de se tourner vers Jésus, ils cherchent plutôt à le supprimer. Et comme Saül, hein, les pharisiens étaient touchés par ils s'intéressaient au rite plus qu'à la relation à Dieu, plus intéressés par le sacrifice que l'obéissance. Ils ne supportent pas la vie. Pourtant, les Écritures témoignent clairement de Jésus, mais ils n'ont pas supporté la vie que Jésus amenait. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui aurait pu sauver Saül. S'il avait vu la vie de Dieu chez David, ça aurait pu le sauver. Mais David ne sera pas arrêté. il entrera dans sa destinée malgré tout ce que Saül a fait. Et on va lire le chapitre 19, pour, on en était là. Déjà au verset 28, Saül vit et sut que le Seigneur était avec David. Quant à Michal, fille de Saül, elle aimait David. Saül craignit de plus en plus David. Et désormais, Saül fut toujours l'ennemi de David. C'est quand même terrible, ça. Et le nom de David devint très célèbre, évidemment. Donc, chapitre 19. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous les gens de sa cour. Donc, vous voyez, il avait déjà essayé de le tuer deux fois avec sa lance. Il avait essayé de le faire tuer par les Philistins à deux reprises. Donc, on en est à la cinquième, là. Il y en a 21 en tout. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous les gens de sa cour, de son intention de faire mourir David. On retrouve la même attitude que chez les pharisiens. Mais David plaisait beaucoup à Jonathan, fils de Saül. Jonathan en informa donc David. Il lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Je t'en prie, sois sur tes gardes demain matin. Reste à l'abri, cache-toi. Je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans la campagne, là où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le dirai. » Vous voyez, ce n'est pas David qui va confronter Saül. Donc, ce n'est pas David qui va confronter l'homme qui est jaloux. C'est Jonathan qui va le faire. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Au roi, dit-il, j'aime bien son plaidoyer, ne pêche pas contre David. » Alors, j'aime bien Jonathan parce que il cherche le rapport à Dieu en premier. « Ne pêche pas contre David, ton serviteur, car il n'a pas péché envers toi. Au contraire, il a très bien agi envers toi. Il a risqué sa vie, il a tué le Philistin et le Seigneur a réalisé une grande victoire pour tout Israël. Tu l'as vu, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu en versant le sang d'un innocent? Pourquoi ferais-tu mourir David sans raison ?» Saül écouta Jonathan. Il fit ce serment. « Par la vie du Seigneur, David ne sera pas mis à mort. » Jonathan appela David et lui dit tout cela, et Jonathan amena David auprès de Saül, et il reprit son service comme d'habitude. Ah, vous allez me dire, voilà, la confrontation, ça a marché, là. Oui. On va voir dans ce chapitre que Dieu va utiliser différents moyens pour protéger David. Et le premier, c'est bien sûr son grand ami Jonathan. Après, ce sera Michal, Samuel, et puis c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Voyez, on monte. Alors le premier, son ami Jonathan, fils de Saül. Saül s'enfonce dans la jalousie et la haine. Il avait essayé donc deux fois de tuer David avec sa lance, en le nommant chef de mille, en lui faisant mener les guerres du Seigneur, en lui demandant de tuer 100 Philistins. Cette fois, il va monter d'un cran, Saül, et il avoue ouvertement son intention de faire mourir David. Il l'avoue devant tout le monde. Non mais il a du culot, le gars qui avait tué Goliath. Et les gens de la cour ne bougent pas. Quand même. Il avoue ouvertement son intention de faire mourir David devant toute la cour, devant Jonathan. Et ce sera la cinquième fois. Ça fait beaucoup, il y en aura 21, vous vous rendez compte? Pauvre David. Et j'ai regardé un peu le discours de Jonathan à Saül. Alors, Jonathan, il est dans l'objectivité, la vérité. Et quelque part, ce qu'il fait, Jonathan, c'est il va, vous savez, l'autre fois, je vous avais parlé des lunettes colorées qu'on peut mettre sur les yeux de quelqu'un pour le rendre jaloux, entre autres, ou pour le disposer négativement à l'égard de quelqu'un. Et avec l'objectivité, la vérité, il va ôter les lunettes colorées de la jalousie. Et il va aligner des faits réels. Il replace son père devant la loi de Moïse, qui est la loi de Dieu. Il lui dit bien, ne pêche pas, il n'a pas péché, pourquoi pêcherais-tu? C'est le rapport à Dieu là qui compte. Et Jonathan était un homme de Dieu. Vraiment. Et vous voyez, la première chose qui l'intéresse, ce n'est pas les choses matérielles, c'est le péché, la désobéissance à Dieu. Et dans un premier temps, ça va être efficace. Ça va être efficace, vous avez vu la réaction de Saül. C'est une façon de parler qui peut convenir quand on est confronté à une personne prisonnière de la jalousie, mais si la personne n'est pas volontaire derrière pour chasser l'esprit de jalousie, ça va revenir à la première occasion. En fait, ce que j'ai constaté là, c'est que Jonathan a réussi humainement. C'est vrai qu'en alignant les faits, objectif, ça, il n'était pas complètement idiot. Il avait gardé son intelligence quand même. Et oui, il a mis 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas de souci. Bon, ok, t'as raison. Donc, c'est bon, il a réussi humainement. Mais ce qu'il avait oublié, notre pauvre Jonathan, c'est que son papa avait une racine de jalousie qui était vraiment accrochée à un mauvais esprit, à un esprit de meurtre, à un esprit très fort. Et tant qu'on déracinait pas ça, l'objectivité, la vérité, la réalité ne donneront rien du tout. Et ça fait mal au cœur parce qu'il aurait pu réussir, Jonathan, hein. Et à la première occasion, ça va recommencer. Et au bout de quelques temps, on va voir que le diable va appuyer sur le bon bouton et ça va reprendre. David reprend son poste à la cour. Rendez-vous compte, il était à la fois musicien et garde du corps. Bon. Mais voilà, c'était l'époque où la guerre avec les Philistins était constante. C'est fatigant, la guerre, hein. C'est usant, cette guerre avec les Philistins. Elle est toujours là, d'ailleurs. Et cette guerre, c'est une guerre d'usure. Et les meilleures décisions de Saül ne vont pas tenir en période de guerre. Parce que pour David, la guerre, bah, c'était l'occasion de remporter des victoires. Et pour Saül, c'était l'occasion de voir David gagner encore. Cette guerre va être une catastrophe de nouveau. David, lui, pour lui, c'est l'occasion de remporter des victoires, mais pour délivrer et protéger le peuple d'Israël. Vous savez, c'était affreux de vivre ces guerres. De toute façon, prenez les journaux, vous allez tout comprendre. On en est au même point, là, en Israël, en ce moment. Les attaques surprises, ils se cachaient. Alors, je ne sais pas s'ils faisaient des tunnels à l'époque, mais c'était exactement le même principe. Ils se cachaient, ils attaquaient par surprise. Ils arrivaient dans un village, brûlaient les maisons, violaient les femmes. Vidaient les greniers, emmenaient le grain, les animaux, et ils partaient. Ils avaient des petits chevaux très rapides, et c'était comme ça tout le temps. C'était une guerre d'usure par petits groupes, une guerre terroriste, on peut dire, hein. Et ça marchait bien, hein. Et à chaque fois, quand il y avait un cas comme ça, pensez bien que le peuple, il était ravi. David arrivait avec son armée, et ça ne durait pas longtemps, hein. Tout le monde passait au fil de l'épée, les gens étaient délivrés, retrouvaient leurs biens. Pensez qu'ils aimaient David. Mettez-vous à leur place. Ce gars, au moins, il n'a pas peur. Il vient avec sa troupe et il récupère tous nos biens. Il nous protège, etc., etc. Imaginez le soulagement du peuple. David avait en tête une chose. Vivre pour la gloire de Dieu, protéger le peuple. Saül avait en tête une chose. Avoir la victoire et la gloire. Ah, oh, ça se ressemble, hein? Ça se ressemble. Mais les motivations ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a un qui pense au peuple, qui pense aux gens, à la vie des gens. Et d'ailleurs, on va le voir plus tard dans son histoire, à propos du partage des biens avec les bagages, et ça, ceux qui connaissent l'histoire. On va voir qu'il s'intéresse aux gens. Et l'autre s'intéresse à sa victoire, à sa gloire. On l'a déjà vu avec Samuel, quand il a dit à Samuel, viens avec moi, honore-moi. J'ai péché, d'accord, mais bon, viens et honore-moi. Vous voyez déjà qu'il était un peu tordu. Et cette fois-ci encore, c'est la guerre. David va infliger une grande défaite aux Philistins, à tel point qu'ils doivent fuir pour lui échapper. Et il y a un critique qui remarque ça, et c'est vrai, on va utiliser les mêmes mots après, vous allez voir. La guerre continuait. David sortit pour combattre les Philistins. Il leur infligea une grande défaite. Ils durent fuir pour lui échapper. Alors, je ne sais pas si ça marche dans toutes les traductions, mais dans la mienne, ça marche. Un mauvais souffle du Seigneur fut sur Saül, alors qu'il était assis chez lui. Autrement dit, la jalousie revient. L'esprit de jalousie est là. Il était là, sa lance à la main. David était en train de jouer de la lyre. Puis Saül chercha à clouer David au mur avec sa lance. Mais David esquiva le coup de Saül, qui planta sa lance dans le mur. Alors, écoutez bien, David prit la fuite, il s'échappa. Donc on avait les Philistins fuient pour lui échapper. Et maintenant, on a David qui prend la fuite pour échapper à Saül. Ça, c'est pas normal. Le premier est normal, le deuxième n'est pas normal. Mais bon, c'est curieux. Et vous savez, dans la Bible, souvent, d'après ce que j'ai compris en hébreu, ce sont des mots qui se ressemblent et qui font écho. Donc, il y a une raison à ce genre de verset pour nous dire qu'il y a quelque chose de totalement anormal. C'est les Philistins qui doivent fuir, C'est eux qui doivent s'échapper et c'est pas David qui doit fuir. Alors qu'est-ce qui se passe ? Au moment où il y a une victoire, c'est comme si le diable appuyait sur le bon bouton. Vous savez, on a tous un bouton comme ça, sauf ceux qui sont parfaits, mais il n'y en a pas. Et on a tous un petit bouton comme ça, et si on appuie dessus, on crie. Alors, c'est différent pour chacun de nous, mais on a comme ça une zone sensible où il ne faut pas trop nous marcher sur l'orteil. C'est vrai, hein ? Parce qu'on est humain, parce qu'on a des failles, et si on nous fait une réflexion dans un certain domaine, on ne dira rien, et dans un autre, on va hurler. Pourquoi ? Parce que bon, on est normaux, on a toutes sortes de blessures, des plus grandes, des plus petites, mais n'empêche que si on touche ce point sensible, on va réagir. Et là, l'esprit de jalousie de Saül était tellement fort, il suffisait d'appuyer sur le bouton « Victoire de David ». Ah, et paf ! La jalousie revenait à 100%. La colère, la volonté de tuer David revenait à fond de train. Et ça a marché. Pourquoi ? Parce que par le raisonnement dans son cerveau, Saül avait très bien compris quand Jonathan lui avait expliqué « Il t'a rien fait, pourquoi tu veux le tuer ? C'est ridicule, arrête ça. » T'as raison. Avec son cerveau, pas de problème. Mais dans ses émotions, avec cet esprit de jalousie chevillé au corps, il suffisait d'appuyer sur le bouton « Victoire de David » et c'était fini. Alors voilà pourquoi on insiste tant pour le TQP. Parce qu'il y a des choses dans notre vie. Il y a des choses dans notre vie à tous. On sait où il est le bouton d'ailleurs. Certains ne le savent pas, d'autres le savent. Et on sait que si on n'est pas délivré de ça, à chaque fois on aura des conflits. À chaque fois on aura des soucis. Parce que ça fait mal et il faut que cet esprit puisse s'en aller. Alors il y a différents esprits. Hein. Là on parle de l'esprit de jalousie, mais il y en a de toutes sortes. Et si cet esprit n'est pas déraciné, le diable peut jouer avec nous toute notre vie. Il sait où il faut appuyer pour nous casser. Voilà. Pourquoi on dit, ben voilà, au TQP, on a l'occasion de faire un peu de ménage et de dire, oula, là, il y a un bouton sur lequel on peut appuyer, là, il y en a un autre. Seigneur, je veux m'en débarrasser. Je chasse ces esprits qui me bousillent la vie et qui me limitent, comme dit toujours André, qui me limitent dans mes mouvements. L'esprit de jalousie meurtrière va s'emparer de Saül à chaque victoire de David. Jonathan avait réussi à le raisonner, il avait réussi à le replacer devant Dieu, devant la loi, mais l'esprit de jalousie reprend le dessus. Et c'est vraiment une excellente image de ce qui nous arrive lorsqu'on refuse de chasser de notre vie les esprits méchants qui s'y sont installés. On les a autorisés, ou c'est héréditaire, ou enfin, on peut imaginer toutes sortes de situations, mais peu importe, ils y sont. On a beau nous raisonner, nous expliquer le problème avec vérité, avec réalité, raisonnement, objectivité, douceur. Dès que l'ennemi appuie sur le bouton déclencheur, c'est fini, les bonnes résolutions s'évaporent et l'esprit méchant nous contrôle, corps et âme. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple et ça marche à fond avec Saül. C'est vraiment un très bon exemple. Donc ça peut nous faire réfléchir, si on sait où on a des boutons comme ça, eh bien il faut vraiment demander à Dieu de chasser cet esprit. Seulement, il faut qu'on soit volontaire. Saül n'avait aucune intention d'être débarrassé de sa jalousie. Pourtant, il aurait dû s'en rendre compte. Après la discussion formidable avec Jonathan, il aurait dû s'en rendre compte. Il ne veut pas. Et tout le problème, il est là. Si on ne veut pas, Dieu ne peut rien faire. Donc, David va s'échapper. C'est encore un mot qui revient beaucoup, hein. Faire mourir et échapper. Si vous regardez dans ce chapitre, c'est des mots qui reviennent sans arrêt. C'est pas un hasard. Et une fois chez lui, c'est sa chère femme qui est folle amoureuse de lui. Au moins, le pauvre David, il a quand même Jonathan et la fille. Oh, c'est curieux d'ailleurs, c'est le fils et la fille de Saül. Plus clairvoyant que le papa. Une fois chez lui, c'est sa femme qui lui conseille de fuir. Ah, ben nous voilà bien. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le surveiller et le mettre à mort, encore, au matin. Il fait bien les choses, hein. Mais Michal, femme de David, l'en informa en disant, « Si tu ne t'échappes pas encore cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle avait sans doute du mal à le convaincre, hein, pour en venir là. Toujours difficile de convaincre les hommes que les femmes ont raison. Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ça arrive souvent dans la Bible, hein, les gens qui sortent comme ça. Probablement, sa maison était sur la muraille. Ensuite, Michal prit le théraphime et le plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à la tête du lit et elle le couvrit d'un vêtement. Ça, c'est classique. Le pire, c'est sincèrement, c'est que ça marche. Hein. Il y a un pasteur à Paris qui s'appelle Paul Ettori. Il raconte volontiers son histoire, donc je peux le dire. Il s'est converti, c'était le frère de ma copine. Et il allait en boîte toutes les nuits. Et son papa est inspecteur de police et il était très sévère. C'était un Corse. Baraque. Et très sévère. Donc la maman, elle avait peur. Et qu'est-ce qu'elle faisait chaque fois que petit loup allait en boîte de nuit? Elle mettait un balai, elle mettait des coussins dans le lit. Il était brun, donc ça allait avec les cheveux balai. Et puis, ça marchait, même avec un inspecteur de police. Quand il s'est converti, elle a été quand même soulagée. Plus aller en boîte. Mais c'est vrai. Lorsque Saul envoya des émissaires pour prendre David, elle dit « Il est malade ». Elle n'avait pas peur de mentir, la nénette. Saül les renvoya pour qu'il voie David. Hein, Saül, il n'est pas idiot. Hein. Non, mais allez voir, il doit connaître sa fille. Ah, les filles, hein, les papas, ils savent. Hein. Saül les renvoya pour qu'il voie David. Il dit « Amenez-le-moi dans son lit et qu'on le mette à mort ». Il était motivé. Hein. Les émissaires revinrent. Le théraphime était dans le lit avec une peau de chèvre à la tête du lit. Ah, d'ailleurs, à ce propos, les chèvres au Moyen-Orient, en général, sont noires. Donc, quand on dit que David était blond, on a un problème. Alors, il était peut-être roux parce qu'il y a des chèvres rousses. Mais bon, c'est un détail. Ça m'a juste amusée. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé ainsi? Pourquoi as-tu laissé partir mon ennemi ?» Mon ennemi, vous rendez compte? Il est gonflé quand même. De sorte qu'il s'est échappé. Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi partir, sinon je te tue. » Elle n'est pas un mensonge près, hein. Là, on a un petit souci aussi. Comment est-ce qu'elle a pu dire des choses pareilles? Alors, par contre, je parlais tout à l'heure, si vous voulez bien regarder au psaume 59, vous allez voir les réactions de David par rapport à cette situation-là. C'est vraiment surprenant. Mais c'est important qu'on le lise quand même aujourd'hui. Parce que ça nous dit un peu comment lui, il a vécu ces choses-là. Donc, le psaume 59, dans ma Bible, il a pour titre « Délivre-moi de mes ennemis ». Du chef de cœur ne détruit pas, de David. Et écoutez bien ça, lorsque Saül envoya garder la maison pour le faire mourir. Donc là, on a un direct sur ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et vous allez voir que David, je suis paisible car tu es là, oui. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. Élève-moi plus haut que ceux qui se dressent contre moi. Délivre-moi des malfaisants. Sauve-moi des hommes sanguinaires. Car ils m'ont tendu une embuscade. Des hommes puissants complotent contre moi. C'est marrant, ils ne citent pas le roi. Hein. Sans que je sois un criminel, sans que j'aie péché, Seigneur, sans que j'aie commis une faute, ils courent, ils se préparent. Mais éveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Seigneur, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour faire rendre de compte à toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres malfaisants. Ils reviennent le soir. Ils grondent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Leur bouche éructe, il y a des épées sur leurs lèvres. Mais qui donc entend? Mais toi, Seigneur, mais toi, mais, Julie dit toujours, mais Dieu, mais toi, Seigneur, tu ris de ces gens-là. Tu te moques de toutes les nations. Par sa force, je me garde en allant vers toi, car Dieu est ma citadelle. Voyez là, il change un peu de discours tout doucement. Dieu, mon bienfaiteur, viens au-devant de moi. Dieu m'offre mes détracteurs en spectacle. Waouh ! Psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ne les tue pas de peur que mon peuple n'oublie. Fais-les errer par ta puissance et fais-les tomber, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche par les paroles de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Leur discours n'est que malédiction, dissimulation. On l'a vu, hein ? Extermine avec fureur, extermine et qu'ils ne soient plus, qu'on sache ainsi que Dieu domine sur Jacob. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, lui, il a toujours le rapport à Dieu. Hein, c'est tout le temps. Qu'on sache ainsi que Dieu domine. Il est soucieux de la gloire de Dieu. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Hein, c'est un peu comme un refrain. Ils errent ça et là, cherchant de quoi manger. Ils passent la nuit sans être rassasiés. Quant à moi, je chanterai ta force. Au matin, je crierai ta fidélité. Car tu es pour moi une citadelle, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, je chanterai pour toi, car Dieu est ma citadelle et mon bienfaiteur. Vous voyez, il y a les deux tout le temps. L'horreur devant ce qui va lui arriver, ce qui risque de lui arriver, devant ces gens méchants. Et puis, le regard tout le temps tourné vers Dieu. C'est naturel. C'est un homme qu'on veut tuer, qui crie à Dieu. Et à ce propos, justement, comment réagir face à la jalousie? Elle n'est pas toujours meurtrière, mais elle l'est parfois par la parole. Je pense que ce psaume est une réponse aussi. C'est vers Dieu. C'est vers Dieu que je crie. Peut-être il y aura un Jonathan qui pourra plaider ma cause auprès des gens jaloux. Mais en fait, c'est vers Dieu. C'est vers Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Et c'est vers Dieu que je crie. Vous voyez là, il ne fait même pas allusion à Jonathan. Il ne fait pas allusion aux gens qui le défendent. Il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Et je pense que c'est dans ces cas-là, la solution. C'est de crier à Dieu et il entend. C'est vrai que dans ces cas-là, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Vous avez vu que Jonathan n'a pas été plus compétent que ça. Ça n'a pas duré longtemps. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui nous délivre de la méchanceté des hommes. Donc, vous relirez ce psaume 59. Et il y en a d'autres aussi sur cette période qui sont vraiment, vraiment frappants. Michal va faire échapper David par une fenêtre qui donnait probablement sur la muraille. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle va mentir deux fois pour se sortir d'affaire. Alors, est-ce que la Bible approuve le mensonge? Je ne pense pas. Mais la Bible ne fait pas de commentaires parce qu'elle est authentique. Elle dit les choses comme elles sont. Elle aurait pu nous faire croire qu'il n'y avait pas de théraphim chez David. Et pourtant, il y avait un théraphim chez David et il n'y aurait pas dû y en avoir. Théraphim, c'est une sorte d'idole qui correspond un peu à ce qu'avaient les Romains, les pénates. Et ça n'avait rien à faire chez un homme de Dieu, honnêtement. Bon, la Bible ne fait pas de commentaires. Par contre, dans Ecclésiaste 8:11, il est écrit « Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas exécutée rapidement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de mal agir. » C'est-à-dire que Dieu est patient. Dieu n'est pas tombé à bras raccourcis sur Michal, mais apparemment Michal avait de fâcheuses habitudes. On va le voir après. Déjà, elle possède un théraphime, idole domestique, qui avait une forme humaine, qui servait à protéger. On en attendait des bénédictions pour le foyer. Bon, ça déjà, c'est pas clair. Plus tard, on verra aussi qu'elle méprisera David quand il va danser devant l'arche de l'Éternel. Donc elle était quand même spéciale. Elle avait une qualité, elle aimait David, au moins ça, elle lui a sauvé la vie. Mais elle n'était pas forcément très claire, notre pauvre Michal. Mais bon, comparé à son frère, c'est un personnage beaucoup plus trouble. Rappelez-vous Jonathan, quand il s'est agi de mentir ou de dire la vérité, au risque de mourir, il a dit la vérité. Il savait qu'il allait être tué. Si le peuple ne l'avait pas défendu, vous vous souvenez de cet épisode, si le peuple ne l'avait pas défendu, il aurait été tué. Mais il était à cheval sur la vérité. Jonathan était vraiment un homme de vérité, un homme de Dieu. Sa frangine, bon. Mais enfin, elle a sauvé David. Et là, David, mettez-vous à sa place. Il perd toutes ses sécurités. Toutes ses sécurités. D'abord, il est en danger à la cour, ça se comprend. Saül n'a qu'une envie maintenant, c'est de le tuer ou de le faire assassiner. Il est en danger chez lui, parce que... Vous avez vu, Saül envoie ses émissaires pour le tuer, pour cerner sa maison. Donc il n'est plus en sécurité chez lui. Et il est sans doute en danger aussi chez son père, parce que fils de Jessé, on sait où il habite, à Bethléem. On peut aussi lui envoyer des émissaires pour le tuer. Alors qu'est-ce qui lui reste à David? Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste Dieu. Et à l'époque, qui était le représentant de Dieu, en quelque sorte? Samuel, qui était, grâce à Dieu, encore vivant, qui habitait toujours à Rama. On aurait pu penser d'ailleurs que Saül respecterait, hein, Dieu et son prophète. Donc il va se réfugier chez Samuel. Et alors là, vous allez voir, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et... Il n'avait rien dit jusqu'à présent. Hein? Et il lui dit tout ce que Saül lui avait fait. Là, il va ouvrir son cœur. Il n'en peut plus. Hein? Mais voyez-vous, il n'est pas allé cafeter auprès des gens de la cour, auprès de ses soldats. Il n'a pas trop dit de choses à Jonathan non plus. Juste l'essentiel. il est allé se confier au serviteur de Dieu, qui à l'époque, c'était celui qui représentait Dieu, le prophète, qui était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour nous, c'est Jésus. Il va ouvrir son cœur et il va déverser tout ce qu'il a. Et j'étais contente de voir ce verset parce que je me suis dit, purée, il a tout gardé pour lui tout ce temps-là. La Bible dit pas du tout ce qu'il a fait. Alors, on a vu dans le psaume hein, qu'il était capable de vider son cœur, mais il va le faire aussi auprès de Samuel. Donc, il alla avec Samuel habiter au Naïoth. On le fit savoir à Saül. David est au Naïoth à Rama. Saül envoya des émissaires pour prendre David. Ben voyons, chez le prophète. Il n'a plus aucun respect de rien ni de personne. Vous voyez, il est vraiment tombé bas, hein, Saül. Ils virent un groupe de prophètes qui se comportaient en prophètes. Alors ça, c'est ma traduction. Je pense, bon, ils prophétisaient. Avec Samuel à leur tête. Le souffle de Dieu fut sur les émissaires de Saül et eux aussi se mirent à faire les prophètes. Ah là, ça devait être drôle, hein. Ils viennent pour attraper David, pour le ramener à Saül pour qu'il soit assassiné. Et les pauvres, l'Esprit de Dieu tombe sur eux. Et là, cette fois, c'est l'Esprit de Dieu, Dieu, vraiment Dieu, tombe sur eux et ils se mettent à prophétiser. C'est rare que Dieu fasse des actions comme ça contre la volonté des gens. Mais bon, c'est l'Ancien Testament, hein. Et l'Esprit de Dieu va tomber et ces pauvres soldats se retrouvent inopérants, juste capables de prophétiser. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais j'aurais vraiment aimé savoir. Peut-être ils annonçaient hein, la carrière de David, ça aurait été très drôle. Le souffle de Dieu fut sur les émissaires de Saül et aussi se mirent à faire les prophètes. On le dit à Saül, donc il retourne, on raconte tout ça à Saül. Vous croyez qu'il s'est dégonflé ? Il a vu l'action de Dieu. Alors il y a eu Jonathan, il y a eu Michal, il y a eu Samuel et maintenant c'est carrément l'Esprit de Dieu lui-même qui est obligé d'agir. Vous vous rendez compte ? Il envoie d'autres émissaires. Mais je rêve. Et eux aussi se mirent à faire les prophètes et toc. Dieu récidive. Il en envoya encore une troisième fois. Il est tombé vraiment bas hein, pour résister à Dieu de cette manière-là. Croyez pas qu'il était assez intelligent pour comprendre ce qui se passait. Eh bien non, il ne voulait pas. Vous voyez, quand cette racine, cet esprit de jalousie, ou d'autres choses, quand on est pris comme ça par un esprit qui nous contrôle, terminé. On ne réalise même plus les choses les plus évidentes. C'est horrible, hein ? Ça fait peur. Il envoya encore une troisième fois, et ceux-là aussi se mirent à faire le prophète. Alors on va dire, il va abandonner. Eh bien non, il n'abandonne pas. Saül alla lui-même à Rama. Non mais c'est pas vrai. Il va lui-même chercher David pour le tuer. C'est la folie meurtrière, quoi. Il est complètement fou, complètement saisi par cet esprit. Arrivé à la grande citerne qui est à ses coups, il demanda « Où sont Samuel et David ?» Oh là là, ça sentait mauvais pour Samuel aussi. Hein. On lui répondit « Ils sont au Naïoth, à Rama. » De là, il se dirigea vers les Naïoth, à Rama. Il persiste. Le souffle de Dieu fut sur lui aussi. Ah, alors là, lui, ça va se corser. Hein. Il continua son chemin en faisant le prophète jusqu'à son arrivée au Naïoth. Lui aussi quitta ses vêtements. Il fit aussi le prophète devant Samuel, il tomba, il resta prostré et nu tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi on dit, donc c'est une phrase qui est restée après, hein, Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Et David s'enfuit des Naïoth de Rama. Enfin, oui. C'est quand même fou que Saül n'a de respect pour personne, même pas pour Samuel, et surtout pas pour Dieu non plus. Il est omnubilé complètement par sa jalousie. Trois fois, Dieu va intervenir miraculeusement et avec humour. Quand je vous dis que Dieu a de l'humour. Quand même. Les gens, je suis sûre qu'ils devaient rigoler. Hein. Dieu est sur son trône et il rit. C'est dans la Bible. Hein. Ceux qui devaient prendre David prophétisent avec les prophètes. Quand plus personne ne peut protéger David, ni Jonathan, ni Michal, ni Samuel, puisque Samuel risque d'être pris dans le même problème, c'est Dieu lui-même qui va le protéger d'une façon complètement inattendue. Et c'est vrai pour nous aussi. Si personne ne peut plus rien faire pour nous dans une situation de travail, n'importe, de famille, Dieu se manifestera toujours. Et parfois de façon très comique. Il y a des tas de gens qui pourraient rendre témoignage de ça. Et j'aime bien ce verset de Job 42, verset 2, qui dit « Rien ne s'oppose à tes pensées Et combien de fois c'est consolant quand on est dans des situations difficiles de pouvoir dire, Seigneur, rien ne s'opposera à tes pensées. En fin de compte, tu feras ce que tu voudras. Tu feras ce que tu voudras. Ils peuvent toujours chanter, tu feras ce que tu voudras. Et c'est un encouragement. Ça va être un encouragement énorme, je pense, pour la vie de David. Saül, qui subit le même sort que les trois équipes, là, prostré 24 heures devant Dieu et devant Samuel. Avoir une telle rencontre avec l'Esprit de Dieu, franchement, ça aurait pu transformer la vie de Saül. Vous ne croyez pas qu'il a encore une occasion? Il a encore une occasion, mais encore faut-il vouloir. À la différence des fruits de l'Esprit qui mûrissent lentement dans notre vie, quand notre vie est en relation, en obéissance au Seigneur, les dons de l'Esprit ne changent pas notre vie. C'est méchant, hein? Mais les dons de l'Esprit ne vont pas transformer notre vie si on ne veut pas se rapprocher de Dieu. On en a la preuve, il a été capable de prophétiser par terre 24 heures. Ça n'a pas changé un poil parce qu'il ne voulait pas changer. Il aurait pu changer. J'aurais été curieuse de savoir d'ailleurs comment ça s'est passé pour les soldats. Peut-être eux, ça les a secoués. Mais les dons de l'Esprit ne changeront notre vie que si on veut se rapprocher de Dieu. Si on préfère garder nos mauvais esprits, notre regard malveillant, notre volonté, Dieu va nous laisser libres. Et les plus beaux dons du Seigneur, les dons les plus forts, ne seront d'aucune utilité. La preuve. Parler en langue, prophétiser, guérir les malades, ça ne nous rapprochera pas de Dieu si on ne veut pas se rapprocher de Dieu. Et pourtant, ça aurait pu être une expérience extraordinaire pour Saül ce jour-là. Mais lui, il a choisi une chose, c'était de s'endurcir. Et les dons, même les dons formidables que Dieu a déversés sur lui n'ont servi à rien. Il a choisi de s'endurcir. C'était son choix, hein. Franchement, à mon avis, ce jour-là, il aurait encore pu s'humilier et se repentir. Vous imaginez 24 heures sous la main puissante du Saint-Esprit? Je crois qu'aucun de nous tiendrait, hein. On voudrait changer tout de suite, hein. On serait prêt à tout. Et il a tenu bon. Sa volonté a résisté jusqu'au bout. Parce que l'esprit mauvais, ben, il y tenait. Alors surtout, faisons pas comme lui, hein.